Allez, on va accueillir comme il se doit. Oui, mais c'est efficace, Michel qui me fait des signes. Voilà, on a de bons éléments là, avec nous. Allez, Michel, bonjour, bienvenue à Audio Radio. En même temps, vous êtes chez vous.
Bonjour, Joël.
Alors, juste avant que vous nous présentiez votre chronique numéro 55, voilà, nous parler de l'actu et de bien d'autres sujets dans le cadre de votre chronique. Rappelez-nous en quelques mots, on le redira à la fin, Constellations et Galaxies.
Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est une petite association par le nombre de membres.
Chaque fois, je vous le dis, Michel, c'est une grande association.
Non, mais je précise par le nombre de membres, parce que pour l'activité...
Mais vous saviez que j'allais répondre ça, voilà. Pardon, je vous laisse.
Notre vocation, c'est la diffusion de la culture scientifique, et plus spécialement dans le domaine de l'astronomie. Et si j'ose dire comme ça, le produit phare qu'on propose, c'est le planétarium itinérant, qui peut s'installer souvent en période scolaire dans des écoles, des collèges, des lycées... En période de vacances, ça peut être par des communes qui nous demandent de venir pour le public ou des centres de loisirs, par exemple.
Ou des associations, voilà, qui voilà. Vont traiter ce sujet.
Donc, une structure gonflable avec la projection d'un beau ciel étoilé de campagne qui permet d'expliquer un petit peu le ciel, les constellations, les planètes, toutes ces choses-là. Bon, à côté de ça, on a d'autres activités un peu plus de type, disons, atelier. Et en particulier, on a démarré l'année dernière un atelier qui n'a rien à voir avec l'astronomie, qui est dans le domaine de la robotique, puisque c'était un sujet promu par la région, avec un petit atelier de programmation de robots qui peut venir, par exemple, dans des collèges ou des lycées en cours de techno, on peut faire de la programmation robotique.
Voilà, donc plus d'infos sur le site. C'est important de le rappeler, on le redira à la fin. Constellations et Galaxies, alors si on est intéressé, .org bien sûr, donc si on est intéressé pour le planétarium, atelier, etc., ne pas hésiter, il y a des infos, et puis un site voilà, qui est coloré voilà, avec les bonnes infos. Alors Michel, on en redira quelques mots, hein, c'est bien de rappeler quand on est en radio les infos. Allez, vous allez commencer à nous présenter votre chronique astro, et vous allez commencer sur l'actu autour des cinquantenaires des premiers hommes sur la Lune, le cinquantenaire donc, et le compte à rebours continue.
Oui, en attendant les 50 ans de l'événement historique, hein, des premiers pas de l'homme sur la Lune, qui sera le 21 juillet prochain pour nous et le 20 pour les Américains, parce que ça s'est passé dans la nuit, les mois précédents nous permettent de resituer les étapes préalables à cette réussite de la mission Apollo 11. Fin novembre dernier, j'avais rappelé l'importance de la mission Apollo 8 qui s'était déroulée en décembre 1968, alors que les premiers lancements des capsules Apollo par l'énorme fusée Saturne V n'avaient été que des tests sans astronautes à bord, dont un relatif échec d'Apollo 6 qui n'avait pas pu être envoyé sur une trajectoire lunaire seulement 8 mois plus tôt. Les trois passagers d'Apollo 8 lancés le 21 décembre 1968 avaient réussi un nombre impressionnant de premières astronautiques. C'était la première sortie de l'orbite terrestre par une capsule habitée, la première vision par des hommes du globe terrestre en entier, car quand on est en orbite, on n'en voit qu'une partie, la première mise en orbite autour d'un autre astre, hein, la Lune, la première vision directe de la face cachée de la Lune et la première vision d'un lever de Terre au-dessus de l'horizon lunaire, photo historique hein, que tout le monde connaît, qui aura profondément changé la perception de notre planète par l'humanité avec sa fragilité et son isolement dans l'espace. Après cette grande mission qui avait eu un énorme retentissement médiatique dans le monde entier, Apollo 9, lancé le 3 mars 1969, sera beaucoup moins spectaculaire, car elle consistera en une répétition de toutes les manœuvres d'une mission lunaire, mais en restant 10 jours en orbite terrestre. Donc ils ont essayé différentes manœuvres, hein, se détacher et retourner la capsule pour venir s'arrimer au module lunaire, hein, qu'on appelle LEM hein, dans le jargon, transférer des astronautes de l'une à l'autre, se détacher du LEM, simuler une descente du LEM jusqu'à un écart de 178 km entre les deux parties, puis recommencer la réunion des deux vaisseaux, tester les combinaisons spatiales en sortie extravéhiculaire et vérifier qu'en cas de problème avec le SAS, le transfert d'un vaisseau à l'autre était possible en passant par l'extérieur. Bref, des tests importants pour la suite du programme, mais qui se déroulèrent en orbite terrestre basse, deux fois moins haut que l'actuel ISS, donc pas très passionnant pour le public.
Donc Michel, Apollo 9 en mars, Apollo 11 en juin, comme
en juillet, pardon, je me suis trompé.
Oui, alors si vous me donnez les mauvaises infos, merci Michel. En juillet, on corrige. Voilà, on répète pas bien sûr avant, mais je rappelle, c'est vous qui faites ce magnifique travail de préparer ces chroniques. Donc Apollo 11 en juillet, là on est bon.
Hein. Oui, c'est bon.
Voilà, merci d'amener la bonne info, comme tout le monde le sait. Donc alors vous allez donc nous parler d'Apollo 10 entre les deux.
Alors exactement.
Donc, entre mars et juillet. Donc, hein.
Et nous pouvions fêter les 50 ans de cette mission ces derniers jours. La mission Apollo 10 s'étant déroulée du 18 au 26 mai 1969. Et c'était de nouveau une mission réellement lunaire, comme Apollo 8, avec une véritable répétition complète en orbite lunaire. Les trois astronautes étaient expérimentés, ayant tous participé auparavant à une ou plusieurs missions Gemini. Il s'agissait de Thomas Stafford, le commandant, John Watts Young, pilote de la capsule, qui est décédé en janvier 2018 à l'âge de 87 ans, et Eugene Cernan, pilote du LEM, décédé en janvier 2017 à 82 ans, mais qui avait pu marcher sur la Lune en décembre 1972 avec la dernière mission Apollo 17. Mais en mai 1969, personne ne s'est posé sur le sol lunaire, car toutes les manœuvres réussies autour de la Lune ont été stériles, la descente du LEM ayant été arrêtée à environ 15 km de la surface. Sans doute une énorme frustration pour l'équipage, surtout Stafford et Cernan, qui étaient à bord du module lunaire. Et c'est même pire que ça, car il faut savoir que les dirigeants de la NASA avaient envisagé que cette 10e mission Apollo soit celle du premier alunissage, donc des premiers pas sur la Lune. Mais comme dans la course à la Lune, l'URSS semblait très en retard sur les USA, ils ont jugé plus prudent de ne pas aller jusqu'au bout et de se limiter à un test complet sans se poser pour que la mission suivante, Apollo 11, ait un maximum de chances de succès. Stafford et Cernan sont donc passés très près de la Lune, à peu près 15 km, mais aussi très près d'être les premiers hommes sur la Lune et voir leur nom passer à la postérité au lieu de ceux d'Armstrong et d'Aldrin qui leur succéderont deux mois plus tard. Pour l'anecdote, le LEM d'Apollo 10, baptisé Snoopy, est le seul de tous les modules lunaires à ne pas avoir été détruit après son utilisation. Ceux d'Apollo 9 et 13 se sont désintégrés en entrant dans l'atmosphère terrestre, alors que tous les autres ont fini par s'écraser sur la Lune, sauf leur base qui était abandonnée au décollage et qu'on a toutes retrouvées sur des images de sondes lunaires récemment. Snoopy a été abandonné sur une trajectoire qu'il a mis en orbite autour du Soleil, où il erre encore aujourd'hui, et des astronomes amateurs se sont mis en tête de le retrouver. Une tâche très difficile car il ne fait que dans les 4 mètres de diamètre et orbite la plupart du temps à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre. Il y a en particulier un Britannique, Nick Hawes, connu dans le monde des chasseurs de comètes, qui a réussi à convaincre la NASA de le soutenir dans cette recherche, ainsi que d'autres institutions, ce qui lui permettra d'utiliser deux télescopes de 2 mètres de diamètre, l'un en Australie, l'autre à Hawaï. Mais même s'il trouve un objet errant sur une trajectoire qui pourrait être celle de Snoopy, pour laquelle on a peu d'informations fiables, il faudra sans doute attendre des années pour qu'il passe suffisamment près de la Terre et qu'on puisse vraiment l'identifier avec certitude.
Alors à quand justement le retour des hommes sur la Lune ?
Alors ces derniers mois, j'essaie de ponctuer mes chroniques avec les étapes de la préparation de ces futures missions humaines lointaines, pas en orbite terrestre basse comme l'ISS, ce qui nécessite la mise au point de nouveaux dispositifs, en particulier un lanceur puissant, analogue à la fusée Saturne V, qui sera le SLS, hein, ce qui veut dire Space Launch System de la NASA, et de capsules habitables qui pourraient être Orion de la NASA, en coopération avec l'Agence spatiale européenne ESA, à moins que des sociétés privées ne viennent à doubler l'agence nationale dans le cadre du New Space, dont je parle régulièrement ici, c'est-à-dire la place de plus en plus grande que prennent des sociétés privées dans la conquête spatiale, dont la fameuse SpaceX, hein, du non moins fameux Elon Musk, qui développe aussi bien des lanceurs Falcon, avec une version puissante Falcon Heavy comparable à Saturn V en termes de capacité, et des capsules Dragon pour ravitailler l'ISS ou y transporter des astronautes dans la version Crew Dragon. J'avais parlé fin mars du premier test réussi de cette capsule lancée le 2 mars, qui s'était arrimée automatiquement à l'ISS le lendemain, avant de revenir se poser dans l'océan Atlantique quelques jours plus tard. Cet essai ayant bien entendu été trop risqué pour embarquer un équipage, la capsule ne contenant qu'un mannequin déguisé en combinaison spatiale. Lors de la dernière chronique, j'avais aussi indiqué le deuxième lancement réussi du Falcon Heavy le 12 avril, avec le retour en douceur de ses deux boosters et de son premier étage. Malheureusement, dans le domaine spatial, les réussites ne mettent pas à l'abri de futurs échecs, ce qui s'est confirmé le 20 avril avec une grave explosion lors d'un test au sol des propulseurs Super Draco de la capsule Crew Dragon. Bien que la formation fût déjà connue, je n'en avais pas parlé à l'antenne 4 jours plus tard, car cela n'avait pas encore été officiellement confirmé. Mais on sait aujourd'hui que la capsule a été très gravement endommagée, voire détruite. Les communiqués officiels sont plutôt discrets, car les mauvaises nouvelles risquent toujours de compromettre la confiance dans une société comme SpaceX. Cet accident n'est même pas signalé sur son site web. Sans connaître tous les détails, et même si la capsule peut être remise en service, Il est clair que cet événement va beaucoup retarder la suite du programme, car tant que les causes de l'explosion ne sont pas précisément connues et les solutions techniques mises en œuvre pour y remédier, la NASA n'autorisera pas la poursuite des vols, dont le prochain, prévu cet été, devait emporter 2 astronautes vers l'ISS. Et cela, indirectement, fait les affaires de son concurrent, Boeing. Donc la capsule CTS-100 Starliner a pris du retard, le premier vol de test sans équipage n'étant pas prévu avant le mois d'août.
Alors, en ce qui concerne le programme lunaire américain, Michel, quelques infos.
Alors, comme tout le monde, j'ai appris que le président Trump avait décidé de l'accélérer sérieusement, craignant sans doute d'être devancé par les Chinois dans cette nouvelle course à la Lune, en tweetant le 13 mai dernier qu'il accordait un budget supplémentaire de 1,6 milliard de dollars à la NASA dès 2020, en lui fixant comme objectif de réussir une mission lunaire avant la fin de 2024, comme annoncé fin mars par le vice-président Mike Pence. Le lendemain de l'annonce présidentielle, l'administrateur de la NASA dévoilait le nom de ce programme lunaire, Artemis, déesse choisie car sœur jumelle d'Apollo, comme dans les années 60. Pour atteindre l'objectif fixé, la NASA devra mettre au point au plus vite son lanceur SLS, dont le premier test de lancement n'est prévu que mi-2020, s'il n'est pas reporté à 2021. Elle devra aussi accélérer la construction de son vaisseau Orion ou financer la construction d'une capsule par une des sociétés privées qui se sont déjà lancées dans la course, comme Blue Origin de Jeff Bezos, patron d'Amazon, ou Lockheed Martin. Et surtout, elle devra revoir à la baisse le projet de la future station spatiale Deep Space Gateway en orbite autour de la Lune, qui devait servir de relais aux missions lunaires. Comme le préconisait Lockheed Martin, elle pourrait se réduire à une simple plateforme d'arrimage baptisée Early Gateway pour accueillir la capsule venant de la Terre et le module lunaire. Comme souvent, cette annonce abrupte de Trump a surpris tout le monde, mais peut-être est-il possible que les Américains accélèrent leur programme lunaire pour y arriver dans les 5 ans, puisque de leur côté, les Français devraient dans le même délai reconstruire le toit de Notre-Dame.
Et des satellites plus nombreux que les étoiles, Michel ?
Alors c'est une mauvaise nouvelle pour les astronomes et tous les observateurs du ciel. Après les problèmes que pose la pollution lumineuse au sol pour admirer la voûte étoilée dans de bonnes conditions, il se pourrait bien que la prochaine calamité vienne du ciel lui-même. Et c'est tout récent, car c'est vendredi dernier, 24 mai, que SpaceX a réussi l'envoi par son lanceur Falcon 9 d'une première série de 60 satellites de son programme Starlink, qui vise à couvrir tout le globe avec un accès Internet rapide par liaison satellite. À terme, il y aurait jusqu'à 12 000 de ces satellites en orbite basse pour offrir cette couverture globale. Le problème, c'est que depuis le lancement des premiers, on s'aperçoit que cette sorte de train spatial, les satellites se suivant à espace régulier sur la même orbite, est parfaitement visible à l'œil nu depuis le sol, constituant donc une série de points lumineux mobiles sur le fond de la voûte céleste, sans doute en raison de la réflexion du soleil sur les deux grands panneaux solaires de 2 mètres par 8. Même si à terme ils devraient être légèrement moins lumineux quand ils auront atteint leur orbite opérationnelle à 550 km d'altitude, pour le moment ils sont seulement à 450, on peut s'inquiéter de cette multitude de points lumineux mobiles venant brouiller considérablement la vision des étoiles, en étant même largement plus nombreux quand la flotte de 12 000 sera en service. Il devrait déjà y en avoir plus de 700 à la fin de l'année. À tout moment, on pourrait en voir des milliers, puisque chaque observateur à la surface de la Terre voit la moitié du ciel, alors que dans la plupart des conditions ordinaires, un beau ciel de campagne ne compte que quelques centaines d'étoiles perceptibles. Alors il faut dire que moi, je pestais déjà contre les avions qui venaient brouiller par leur traînée les photos que j'essayais de faire du beau ciel de Dordogne. Là, ça va être la calamité. Alors encore une fois, la course au profit et la technologie fait fi du patrimoine naturel et culturel de l'humanité, les constellations des différentes représentations du ciel étant la projection dans les étoiles des mythes fondateurs de toutes nos grandes civilisations.
Allez, deuxième partie de votre chronique avec le thème « Les satellites artificiels et leur observation ».
Alors pour être honnête, j'en avais déjà parlé il y a un peu plus d'un an, mais j'ai choisi de reparler de ce thème à cause de cette actualité plutôt déprimante de Starlink. Et parce que depuis une dizaine de jours et jusqu'au 7 juin, nous sommes dans une période favorable d'observation du plus gros de ces satellites, la Station Spatiale Internationale, ISS, véritable laboratoire spatial accueillant un équipage de 6 astronautes en permanence, actuellement 3 de la NASA, dont 2 femmes, 2 Russes, dont le commandant de la mission, et un Canadien. Quand la météo le permet, on peut voir l'ISS traverser le ciel d'ouest en est pendant environ 7 minutes, comme un point très brillant, parfois presque autant que Vénus. Par contre, il faut que le ciel soit un peu assombri, l'ISS n'étant pas visible en plein jour. Et ces observations ne sont donc possibles qu'assez tard, entre 22h30 et 23h20, un horaire différent chaque jour. Hein, je les mettrai sur le site web demain. Elle repasse souvent dans la nuit vers minuit ou 1h du matin, puisqu'elle ne met que 1h30 à effectuer une orbite complète autour de la Terre, mais de manière plus brève, car elle plonge rapidement dans l'ombre de la Terre. En effet, malgré son éclat souvent impressionnant, ce qu'on voit n'est que le reflet du Soleil sur ses panneaux solaires, presque aussi grand qu'un terrain de foot, et souvent à très grande distance. L'ISS étant parfois à plus de 1000 km de nous quand on la voit. La distance minimum est d'environ 400 km quand elle passe pile au zénith, c'est-à-dire juste au-dessus de notre tête. Avant d'identifier un objet mobile dans le ciel comme un satellite, il faut considérer plusieurs facteurs, hein, en particulier le temps de traversée du ciel, qui est bien plus rapide pour les satellites, quelques minutes, que pour les avions, qui sont souvent identifiables à leur feu clignotant ou au bruit qui accompagne leur vision. À l'inverse, les étoiles filantes ou les bolides, bien plus rares, ne se montrent que pendant quelques secondes. Par ailleurs, les avions ou les étoiles filantes brillent par eux-mêmes et sont donc visibles à n'importe quel moment dans la nuit. Ce qui n'est pas le cas des satellites qui n'émettent pas de lumière mais sont rendus visibles par la réflexion du soleil sur leur structure, souvent des panneaux solaires ou de grandes antennes pour les plus brillants. On ne les voit donc pas en plein milieu de la nuit, quand le soleil est caché très bas sous l'horizon, mais plutôt en début ou en fin de nuit.
Et peut-on prévoir leur arrivée pour se préparer à les voir passer dans le ciel ?
Alors, il existe plusieurs sites internet gratuits prédisant les passages des satellites artificiels, mais je conseille celui que j'utilise, moi, personnellement, qui s'appelle Events Above, hein, events-above.com. Il a l'avantage d'avoir une version en français et de nombreuses autres langues. Il propose aussi une version Android pour les tablettes ou les smartphones. Une fois sur le site, on peut se créer gratuitement un compte afin de définir un ou plusieurs sites d'observation. Configuration qui est mémorisée et réutilisable à chaque consultation. C'est très important de le faire le plus précisément possible car l'observation des satellites artificiels peut varier énormément à quelques kilomètres près parce qu'ils se déplacent sur des orbites très proches qui n'ont rien à voir avec les distances des objets célestes dont la vision est globalement la même pour tous les terriens, même pour la Lune plus proche. C'est particulièrement vrai pour un phénomène appelé flash iridium dont la survenue ou l'éclat change beaucoup suivant la position de l'observateur au sol. Parfois plus brillant que Vénus, il s'agit du reflet du Soleil sur les antennes et panneaux solaires de satellites de communication directe avec des téléphones, dits satellitaires, et non les cellulaires comme ceux que nous possédons tous ou presque. Cet éclat n'est souvent perceptible que de manière très fugitive, typiquement une trentaine de secondes, d'où l'importance de connaître leurs horaires avec précision. On les voit comme un petit point brillant devenant de plus en plus lumineux, jusqu'au flash, puis à une rapide décroissance de la luminosité. Contrairement à l'ISS, parfois visible d'un horizon à l'autre, les iridiums ne se manifestent que sur une portion de leur trajectoire dans le ciel, d'où l'intérêt de la carte proposée par le site, montrant la trajectoire exacte dans le ciel et l'endroit précis du flash. Malheureusement, depuis 2017, les satellites iridiums qui produisaient ce phénomène très souvent ont été progressivement remplacés par des satellites de nouvelle génération qui ne produisent plus ces flashs, qui sont donc devenus beaucoup plus rares. D'autres satellites produisent aussi ce genre de flash ou de clignotement, comme des débris de fusées qui orbitent parfois depuis des décennies au-dessus de nos têtes, leur éclat variant beaucoup selon que le Soleil se reflète sur leur long côté ou leur petite section quand ils tournent sur eux-mêmes. Attention, les objets plus lents qui traversent le ciel la nuit en clignotant rapidement sont plutôt des avions, hein, bien reconnaissables à leur son, les satellites étant totalement silencieux. Contrairement à d'autres sites plus complets, mais en langue anglaise, Events Above ne prévoit pas ces autres types de flash, mais il nous donne la liste de tous les satellites visibles pendant une nuit, avec leur trajectoire précise dans le ciel. Il y en a sans arrêt, et il n'est pas rare d'en repérer plusieurs pendant une soirée d'observation, sans même les chercher, juste en remarquant un point en déplacement parmi les étoiles, aussi bien à l'œil nu que parfois même dans le télescope ou dans la lunette. Il y en a tant que ce site d'éphémérite permet de les filtrer par luminosité. Pour donner une idée, j'ai consulté hier ces prévisions pour cette nuit, hein, le 29 mai. On en a 9, dont l'ISS de magnitude inférieure à 3, donc bien lumineux, avant minuit, et 25 en deuxième moitié de nuit jusqu'à l'aube, soit 34 en tout. Si on règle la magnitude à 4, un peu moins lumineux, on en a à peu près 3 fois plus. Et à la magnitude 5, c'est souvent la limite de la perception des étoiles dans un ciel noir de campagne, cela double encore.
Alors si je comprends bien, ça fait donc de très nombreux satellites visibles à l'œil nu en une seule nuit.
Oui, et il ne faut pas s'étonner de ces centaines de satellites visibles en une seule nuit, car c'est un véritable essaim qui tourne autour de la Terre. On estime qu'il y a environ 3500 satellites actifs au-dessus de nos têtes et 2000 hors d'usage. Nombre difficile à déterminer précisément en raison des satellites à usage militaire dont les lancements et caractéristiques sont généralement secrets. Mais si on ajoute les débris, comme par exemple les étages de fusées restés en orbite, c'est beaucoup plus. Les spécialistes évaluent environ 35 000 les objets de plus de 10 cm en orbite autour de la Terre. Certains pensent d'ailleurs que des solutions devront prochainement être mises en œuvre pour nettoyer l'espace autour de la Terre, notamment certaines orbites particulièrement utiles, comme l'orbite géostationnaire par exemple, c'est-à-dire une orbite équatoriale à environ 36 000 km d'altitude, où les lois de Kepler rendent le satellite fixe par rapport au sol, ce qui est très utile pour les communications, comme par exemple la diffusion d'émissions de télé, captable avec une petite parabole fixe. Cette flotte de satellites est extrêmement variée selon leur usage, aussi bien en taille, depuis des micro-satellites d'une dizaine de centimètres jusqu'à l'énorme ISS de 450 tonnes et grande comme un terrain de foot pour ses panneaux solaires. Il y a aussi une grande variété d'altitudes, depuis des orbites basses comme celle de l'ISS à environ 400 km jusqu'aux géostationnaires à 36 000 km, en passant par les satellites GPS à environ 20 000 km. Et aussi leur inclinaison allant de l'équateur, normalement pour les géostationnaires, à des orbites polaires, c'est-à-dire survolant les deux pôles, très utile pour certains satellites d'observation de la Terre, dont la lente rotation 24 heures leur permet d'explorer toute la surface en quelques révolutions. Ils diffèrent aussi par leur fonctionnement, qui peut être isolé ou collectif en constellation, comme on les appelle. Par exemple, les GPS, 31 satellites actifs, ou les Iridium, 66 satellites actifs. Certains prévoient même dans le futur des méga-constellations de centaines ou milliers de satellites en orbite très basse, par exemple pour constituer un réseau maillé de transport des informations pour l'Internet, dont le fameux Starlink qui commence à poser quelques soucis aux observateurs du ciel. Sur Events Above, on indique pratiquement 4 passages de ces satellites Starlink, de ce train de satellites, puisqu'ils se succèdent assez près les uns des autres, alors qu'ils ne sont pour le moment que 60 en orbite, bien loin des 12 000 de la version finale du réseau. On peut donc affirmer qu'on n'a pas fini de voir passer des petits points lumineux au milieu des étoiles quand on lève les yeux vers le ciel. Mais avant de penser à un truc bizarre, comme les fameux ovnis, je conseille aux auditeurs de noter soigneusement l'heure et repérer la trajectoire dans le ciel par rapport aux constellations, ou si on ne les connaît pas, au moins la région du ciel où on les voit, est, sud, ouest ou nord, la hauteur approximative et la direction de déplacement. En consultant ensuite un site comme Events Above, ces éléments permettront de constater qu'il s'agit en fait d'un OVI, objet volant identifié, et de connaître précisément sa nature, souvent un satellite ou un débris de fusée. Malgré les nombreuses heures que j'ai déjà passées en dehors à observer la voûte céleste, je n'ai pour ma part jamais vu d'OVNI jusqu'à présent. Mais ça viendra peut-être un jour.
Peut-être, Michel. Allez, troisième partie de votre chronique, le ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je propose aux éditeurs d'aller consulter la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails sur les événements astronomiques de juin que je mettrai à jour demain. Les cartes, c'est quand même plus facile que de parler des constellations à la radio. Avec l'approche du solstice d'été, le jour le plus long de l'année, qui tombe en 2019 le 21 juin comme souvent, la nuit arrive tard. Actuellement, le soleil se couche un peu après 21h30 et la nuit noire survient vers 23h. Fin juin, plus près du solstice, ce sera encore plus tard, avec un coucher vers 21h50 et la nuit vers 23h15. Je rappelle que le solstice, marquant officiellement le début de l'été, correspond au moment où le soleil est le plus haut dans le ciel au-dessus de l'équateur céleste, du fait de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à son orbite. Les saisons viennent de cette inclinaison et n'ont rien à voir avec la distance Terre-Soleil, qui sera maximum le 5 juillet, c'est-à-dire en plein été. Ceci explique aussi l'inversion des saisons entre les deux hémisphères, car dans la moitié sud de la Terre, c'est l'hiver qui commencera le 21 juin. Comme nous approchons de la fin du printemps, le ciel typique de la saison est encore visible vers le sud en début de nuit, mais déjà basculé vers l'ouest avec sa constellation vedette du Lion, vers le sud-ouest. Elle est bien reconnaissable aux étoiles de sa crinière et de son poitrail qui forment comme une faucille dans le ciel, ou pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument agricole, un point d'interrogation inversé droite-gauche. Il est suivi au sud par la Vierge, dont l'étoile la plus brillante, Spica, c'est-à-dire l'épi en latin, est facile à repérer. En suivant la courbe de la queue de la Grande Ourse, on trouve une étoile très brillante et jaunâtre, Arcturus, la deuxième plus brillante du ciel sous nos latitudes, puis un peu plus loin, Spica. À partir d'elle, les principales étoiles de la Vierge forment comme un grand Y en partant vers le Lion. C'est dans cette espèce de coupe du Y de la Vierge, derrière la queue du Lion, que se situe une forte concentration de galaxies, connue sous le nom d'amas de la Vierge. Il faut un télescope ou une petite lunette astronomique pour les apercevoir. Comme notre Voie lactée est absente du ciel de printemps, c'est une période favorable à l'observation des galaxies, puisque notre visée peut porter plus loin sans être arrêtée par les étoiles ou les nébuleuses de la Voie lactée. Celle-ci se lève progressivement à l'est avec les constellations de l'été, dont nous parlerons fin juin, mais on peut facilement reconnaître le fameux triangle de l'été formé par les trois étoiles estivales les plus brillantes qui se lèvent en ce moment en début de nuit noire vers 23h pour arriver vers le sud à peu près vers 4h du matin. Fin juin, en début de nuit noire, le ciel de printemps sera complètement basculé vers l'ouest avec le Lion déjà bien avancé vers son coucher et le ciel de l'été occupera déjà toute la moitié est avec la Voie lactée bien visible montant progressivement vers le sud. Côté planète, Mars, reconnaissable à sa couleur orangée, peut être encore aperçu le soir vers l'ouest, mais de manière assez fugitive, car elle se couche dès minuit. La vedette du moment est Jupiter, qui se lève dès le début de nuit et culmine au sud vers 3h du matin. Fin juin, elle culminera vers minuit. C'est donc une période favorable pour son observation, de préférence quand elle est assez haute dans le ciel vers le sud. Très brillante, on ne peut pas la rater, et elle reste encore visible tard dans les lueurs de l'aube, donc on peut aussi l'apercevoir le matin vers le sud-ouest si on se lève tôt. Je rappelle à nos auditeurs qu'avec une simple paire de jumelles, si possible en prenant appui pour ne pas trop bouger, on peut voir jusqu'à 4 de ces satellites visibles comme des petites étoiles plus ou moins alignées autour de la planète et dont les positions varient en quelques dizaines de minutes. Ce sont les 4 satellites galiléens, car découverts en 1609 par Galilée avec sa petite lunette. Io, Europe, Ganymède et Callisto. La deuxième planète observable en ce moment est Saturne, qui se lève vers minuit et demi en ce moment et culmine au sud vers 5h du matin, donc plus facilement visible le matin. Fin juin, elle sera levée en début de nuit noire et culminera vers 3h, ce qui la rendra plus facilement observable le soir. Mais malheureusement, une paire de jumelles ne suffit pas pour voir ces anneaux qui nécessitent le grossissement d'un petit télescope. Comme chaque mois, la Lune et les planètes produiront quelques conjonctions, comme mercredi prochain, 5 juin, où son fin croissant se rapproche de Mars dans le ciel du soir, jusqu'à leur coucher vers minuit. Il faudra ensuite patienter jusqu'au dimanche 16 pour voir en soirée une très grosse lune, pratiquement pleine, toute proche de la brillante Jupiter, moins de la largeur du petit doigt bras tendu. Deux jours plus tard, le mardi 18, ce sera un rapprochement presque aussi serré avec Saturne, visible dès leur lever vers 23h. Et vers la fin du mois, dans la nuit du 27 juin, on peut essayer d'observer les chutes de Bootide, un essaim d'étoiles filantes qui sera à son maximum d'activité et peut nous réserver une surprise comme en 1998 où il avait été particulièrement intense avec jusqu'à 60 étoiles filantes visibles à l'heure. Je rappelle que ces essaims correspondent au passage de la Terre dans une zone du ciel polluée par des petits graviers laissés lors du passage d'une comète, ce qui explique leur répétition aux mêmes dates année après année. Mais bien sûr, on peut voir des étoiles filantes toutes les nuits pour peu qu'on prenne le temps de regarder le ciel assez longtemps. Nous aurons sans doute l'occasion de rappeler ce rendez-vous avec les Bootides lors de la prochaine chronique astro, puisqu'elle devrait en principe être diffusée le mercredi 26 juin, c'est-à-dire juste la veille de l'événement.
Voilà, mercredi 26 juin, prochaine chronique. Alors, bien sûr, un grand merci Michel à vous pour ce magnifique travail. Hein. C'est votre passion, voilà, mais c'est quand même du travail, hein. C'est bien de le rappeler, hein.
Ben surtout quand j'ai peu de temps pour préparer la chronique, parce que pour tout dire, j'étais absent de la région de jeudi jusqu'à dimanche, puisqu'on parlait de notre planétarium. Il existe en France une organisation des planétariums, l'APLF, Association des planétariums de langue française, parce qu'il y a aussi des Belges, des Suisses, des Québécois, qui se réunit quelques jours, une fois par an, pour que les constructeurs présentent les nouveautés, qu'on parle des nouveaux spectacles, etc. Et à chaque fois, c'est un des planétariums qui invite les autres pour ce colloque. Et cette année, c'était le musée de l'air et de l'espace au Bourget, au nord de Paris, qui invitait les planétariums à venir se rencontrer.
Voilà, mais vous avez quand même pris le temps, hein, de préparer votre chronique. Alors, on va rappeler Constellations et Galaxies. Alors, je crois qu'il manque celle du mois dernier, hein, qu'on vous a pas transmis. Mais sinon, les 53, on peut les retrouver. Ça permet d'avoir un archivage, de revenir voilà. En arrière en fonction de l'actu. Donc, bah, redites au moins quelques mots hein, sur l'association, le site internet.
Pour la connaître, le plus simple, enfin, si on veut se renseigner, en particulier des enseignants qui ont encore envie de nous faire intervenir souvent, on a des demandes en fin d'année, puisque c'est vu comme une activité un petit peu ludique, le planétarium, hein, donc au mois de juin, juste avant les vacances. Donc sur le site www.constellationsetgalaxies.org, il y a un onglet planétarium qui permet de savoir un peu de quoi on parle dans la séance, sachant bien qu'on discute toujours avec les enseignants. Si on veut faire des choses particulières, on peut modifier le contenu de la séance.
Oui, s'adapter.
Ça explique un petit peu l'espace qu'il faut pour installer la coupole, hein, qui est assez grande et surtout haute. Elle fait 3 mètres de haut, donc il faut un local assez grand. Et tous les détails, et en particulier les tarifs, parce que ça n'est pas gratuit. Malheureusement, on n'est pas suffisamment subventionné pour pouvoir proposer ces animations à titre gracieux. Il y a un onglet concernant les ateliers, en particulier la robotique dont j'ai parlé tout à l'heure, et un onglet qui intéressera peut-être plus la plupart des auditeurs, qui est astronomie, dans lequel on trouve le ciel du mois. Donc je vais mettre en ligne demain le ciel du mois de juin, avec les rendez-vous de l'ISS, etc., les cartes du ciel qui permettront peut-être de se retrouver un petit peu au milieu de toutes ces étoiles. Et entre autres, il y a aussi une rubrique chronique astro O2 radio, dans laquelle on retrouve les enregistrements de toutes les chroniques depuis la première. On n'est pas obligé de les écouter toutes, hein, ça serait quand même assez long. Mais par contre, si on s'intéresse à un sujet particulier, il y a une petite description du contenu qui permet de choisir éventuellement une chronique qui traiterait d'un sujet, je ne sais pas, moi, les trous noirs, par exemple. Bon, on va trouver à quelle date et dans quelle chronique j'ai abordé les trous noirs, et on pourra réécouter l'enregistrement de l'émission.
Voilà, puis il ne faut pas hésiter également à intervenir. Hein, on remettra quelques infos. On parlait des réseaux sociaux en préambule. Donc s'il y a des questions, qu'on n'hésite pas. Bon, il ne faut pas la poser, bien sûr, au dernier moment. Voilà, pour le mois prochain, mais d'ici le 26 juin, voilà, qu'on n'hésite pas. Michel, encore un grand merci. Hein, puis on rappellera, hein, Constellations et Galaxies, on a toutes les infos.org. Hein. Voilà, on se retrouve donc le 26 juin.
En principe, oui.
Allez, merci à vous pour l'enthousiasme et l'implication habituelle. Et on se retrouve donc le mois prochain, ce sera la chronique astro numéro 56.